Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux futures élections départementales dont le premier tour aura lieu dimanche 22 mars, dimanche prochain, et le second tour le dimanche 29 mars. C'est la première des cinq émissions spéciales que Radio Vassivière va consacrer à ces futures élections départementales, anciennes élections cantonales. Nous recevons aujourd'hui Nadine Saint-Jean-Lajoie et Jérôme Orvin, tous deux candidats sur le canton de Felletin pour Europe Écologie Les Verts. Bonjour Nadine.
Bonjour Rodolphe.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Alors on est parti pour une petite demi-heure d'entretien. Pour commencer, c'est difficile de faire l'impasse sur toutes les modifications qu'a connues ce scrutin. Conseillers départementaux et non plus généraux, modification du calendrier électoral, canton redécoupé, mise en place d'un scrutin binominal, renouvellement de tous les conseils départementaux en même temps, contre un renouvellement par moitié tous les trois ans auparavant. Du coup, quand on fait campagne comme vous avec tous ces changements et sans savoir clairement quelles seront les compétences et ou attributions des futurs conseillers départementaux, ça se passe comment cette campagne ?
Pour le moment, ça se passe très bien. Par rapport aux différentes rencontres que nous, on fait sur le terrain, il y a un bon accueil. Par rapport à effectivement tout le changement électoral de conseillers généraux à conseillers départementaux, en fait, les gens n'ont pas forcément fait tilt sur tous ces changements. Il y a effectivement un discours médiatique national qui parle de changement, mais concrètement sur le territoire, les gens n'ont pas forcément encore bien compris tout ce qui se passait. Donc, ce qui va certainement poser des problèmes chez nous, il n'y a qu'un bureau de vote par commune, donc ça va aller. Mais dans certaines villes plus grandes, les gens ils vont pas trop savoir. Il va y avoir des changements entre les votes d'avant et les votes de maintenant. Donc effectivement, il va falloir faire de la pédagogie dans les jours qui viennent. Où est-ce que je vais aller voter? Comment ça se passe? Mais pour l'instant, les explications, enfin qu'on passe de conseils généraux à conseils départementaux, sachant que les conseils généraux, c'était sur les départements, c'est pas là où aujourd'hui il y a un grand changement. C'est un changement de formulation, mais c'est pas un changement c'est pas des nouvelles élections, quoi.
Et est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions sur les attributions des futurs conseillers départementaux ?
C'est plus aujourd'hui les gens qui sont conscients de la politique et de la gestion des différentes collectivités territoriales qui se posent beaucoup de questions sur ce que va devenir la compétence de ce conseil départemental. Aujourd'hui, on a de moins en moins de changements, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir plus des compétences centralisées au niveau des régions, notamment les compétences économiques. Mais de toute façon, les départements, avec toutes les compétences qu'il a aujourd'hui, entre l'enfance, l'éducation, les collèges, avec la proximité sociale, ça, il va le garder. Et puis même dans un profil de grande région, de toute façon, l'économie vue de Bordeaux sur une région à 12 départements, sur une des plus grandes régions d'Europe aujourd'hui, il va falloir de la proximité. Donc les régions... Telle que va être la nôtre en 2016 entre l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin, il faudra que la Creuse joue un rôle de proximité dans cet ensemble-là. Donc c'est vrai que de toute façon, même si on n'a pas toutes les compétences directes, on sera bien obligé d'être un relais de la politique régionale plus tard.
Et une des principales nouveautés de ces élections départementales, c'est la mise en place du principe du binôme mixte. Et alors ce binôme mixte est a priori un mode de scrutin unique au monde. Du coup, le futur conseil départemental sera composé de 50% de femmes et de 50% d'hommes. Qu'est-ce que ça va changer d'après vous ? J'ai envie de poser la question à Nadine.
Eh bien, tant mieux. Je pense que c'est formidable. Si en France, une fois encore, on arrive à réaliser et à augmenter le niveau de démocratie... on est très content et on en est très fiers. Donc, Europe Écologie Les Verts se bat justement pour la démocratie participative. C'est vraiment un moment où elle va pouvoir être pratiquée. tout le monde, et en Creuse en particulier, on voit bien au travers des associations que les femmes sont généralement au premier plan dans tout ce qui est de la vie active, associative, et elles s'impliquent. Et moi, je trouvais regrettable, en fait, qu'elles ne soient pas impliquées à un plus haut niveau, parce qu'elles ont vraiment quelque chose à apporter en plus, parce qu'elles n'ont pas le même regard que les hommes. Et il n'y a pas d'incompatibilité, il y a simplement un regard complémentaire. Et c'est très important que cette complémentarité puisse s'exprimer.
Et est-ce que vous pensez que ça va aider à renouveler ce qu'on appelle le personnel politique ?
Alors, ça se fait un petit peu difficilement, puisqu'on arrive à une loi instaurant le binôme. C'est vrai que j'aurais préféré que les femmes s'impliquent sans cette partie d'obligation qu'il y a quelque part. Mais en même temps, je pense qu'il fallait un petit peu forcer la main. Les femmes ont tendance à rester trop en arrière. C'est vrai, de par leur activité, elles ont sûrement moins envie et l'intention de se mettre comme ça en avant. Mais ça va venir doucement et je pense que là, c'est bien, on va y arriver.
Jérôme, juste avant, vous parliez de proximité. Une des nouveautés, c'est aussi le redécoupage des cantons. Les cantons sont plus étendus et des communes comme Royères-de-Vassivière, par exemple, ne sont plus chef-lieu de canton. Qu'est-ce que ça va changer pour les habitants et pour les futurs conseillers départementaux, d'après vous ?
Au niveau de la question redécoupage, c'est bien une élection départementale. Et donc, c'est la représentativité des élus qui sont sur des territoires plus restreints. Mais c'est bien une compétence départementale. Les élus du canton de Felletin vont représenter et gérer un département. Ils vont pas gérer ce qui se passe sur le canton de Felletin. C'est juste une représentativité territoriale. Et c'est justement cette représentativité territoriale qu'il va falloir amener au sein du département et après plus largement au sein d'autres liens avec d'autres territoires, que ce soit les départements voisins, que ce soit l'aspect massif central, que ce soit la grande région de l'autre côté. Donc de toute façon, c'est pour amener une identité, une réalité d'un territoire qui est importante à souligner aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans les compétences plus locales, il y a l'aspect lien social qui est aussi important entre les communes, les habitants de ce territoire et puis ce qui se passe au niveau départemental. Nous, par exemple, au niveau Europe Écologie des Verts, nous faisons la proposition de déposer dans chaque municipalité un livre d'or, un livre de doléances pour que, entre le citoyen et nous au niveau départemental, il y ait un lien permanent. Pour justement faire que les propositions viennent de la base et pas forcément d'un chapeau quelque part. Donc c'est là où on veut faire une participation citoyenne pour aller jusqu'au bout et pour faire le lien entre chaque habitant et puis sa collectivité locale qui est le département pour ce qui nous concerne.
Et c'est impossible d'y échapper, c'est la réforme territoriale, la future grande région Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin. Quelle place, d'après vous, pour le département de la Creuse dans cette future grande région, en sachant que la Creuse sera le département le plus faiblement représenté, avec 4 élus sur les 183 élus que comptera la future Assemblée régionale ?
Ça va être une vraie question. Comment représenter un département comme la Creuse dans cette grande région, 2% de la population, une économie très faible. Aujourd'hui, il y a autant d'habitants dans la région Limousin que dans le département de la Gironde. Donc c'est vrai que ces réalités de territoire vont faire qu'il va falloir effectivement faire ensemble et faire autrement certainement pour exister au milieu de tout ça. Et l'enjeu, justement, va être de porter 4 personnes qui vont pouvoir porter cette voix-là. Après, c'est pas forcément uniquement les Creusois qui porteront cette réalité, c'est aussi toute la ruralité. Toutes les zones rurales de cette grande région, que ce soit au Pays Basque, que ce soit en Dordogne ou que ce soit dans la Vienne ou en Creuse, c'est d'abord ces réalités rurales-là qu'il va falloir porter au sein de la grande région, qui n'est pas simplement qu'une grande région française, qui va être dans les 10 plus grandes régions européennes. Et effectivement, Bordeaux va falloir se battre avec les autres régions d'Europe. Nous, il va falloir qu'on se batte au sein de cette nouvelle région. Donc c'est à charge effectivement des élus, de ces 4 élus-là, mais aussi en relais des élus locaux que le département aura, qu'on aura à exister au sein de cette grande entité.
On va revenir maintenant aux élections départementales qui nous intéressent aujourd'hui. Vous êtes tous les deux candidats à une fonction de conseiller départemental. Quel bilan vous dressez de l'action du Conseil général sortant, Nadine ?
Globalement, on est relativement satisfait en fait de ce qui se passe au niveau départemental creusois. On l'est beaucoup moins donc au niveau national, où d'ailleurs l'Europe Écologie Les Verts a souhaité quitter le gouvernement parce qu'il y a trop de tensions, de distensions, et il n'y avait plus qu'une solution, c'était de se couper. Donc il y a, pour nous, on peut toujours arriver à améliorer. On a encore des sujets qui nous tiennent à cœur, qui n'ont pas été menés plus en avant. Donc on est prêt à remplir en fait cette mission qui nous sera donnée de défendre ce que l'on a envie de porter, donc au niveau de l'agriculture, au niveau du social, du tourisme, pour arriver à développer et maintenir de bons services également sur l'ensemble du territoire départemental.
Alors, sur votre profession de foi, quand je l'ai lu, vous mettez en avant l'idée d'une transition écologique, économique et sociale. Comment cette transition écologique, économique et sociale, je répète, comment ça peut se traduire concrètement à l'échelle du département de la Creuse ?
Alors, une des premières idées, c'est, enfin, par exemple, de relocaliser tout ce qui est la transformation des déchets sur notre territoire. Plutôt que de se retrouver au niveau départemental avec des milliers de tonnes de déchets, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà les traiter localement ? Donc une des idées, c'est de créer le mois prochain 1 à 3 emplois par commune pour aider chaque commune à réfléchir comment est-ce qu'elle pourrait traiter les déchets verts, les déchets recyclables sur place qui peuvent se composter pour pouvoir les travailler localement. Arriver à faire des partenariats entre un cantonnier, une municipalité, des entreprises agricoles ou autres, pour pouvoir traiter tous ces déchets-là au niveau local. Et déjà, au niveau départemental, ça ferait un peu plus d'un tiers des déchets qui n'arriveraient pas au niveau départemental. Ça ferait une question de moins plus loin à traiter. Et localement, ça permettrait de créer de l'emploi, ça permettrait de créer des outils, des plateformes, donc soit travailler avec des agriculteurs pour mélanger avec des fumiers, soit avec des municipalités par rapport à l'entretien des espaces verts. Et ça permettrait d'avoir un compost local qu'on pourrait valoriser dans les parcs et jardins, que ce soit chez le particulier qui a son jardin ou pour la floraison de l'école ou un agriculteur qui a besoin de compost. Donc c'est relocaliser, créer un nouveau métier qui localement pourrait nous servir tous les jours.
Notre vision des choses, elle n'est pas uniquement sur la production en circuit court, mais également donc la revalorisation et la valorisation des déchets en circuit court. Là aussi, on va voir qu'on est gagnant, puisque ça fera moins, la quantité de déchets sera donc diminuée. On parle actuellement de peut-être emmener nos déchets donc dans l'Indre, ce qui est pour nous une aberration. On souhaite vraiment, nous, on produit nos déchets, on s'en occupe, on va pas aller exporter notre problématique ailleurs. Donc voilà un peu dans l'état d'esprit dans lequel on est en ce qui concerne cette problématique.
Oui, cette proposition, c'est vraiment la transition économique, écologique et sociale.
Tout à fait. C'est en même temps de créer du lien entre les différents acteurs sur une commune. Le lien social, il est aussi là. C'est-à-dire que c'est une entrée économique, c'est une entrée écologique et c'est une entrée sociale. Le fait de recréer de la proximité à travers des projets concrets comme celui-ci peut permettre justement de lier toute cette transition. Mais ce qu'on fait déjà aujourd'hui au niveau de l'alimentation. Moi aujourd'hui, en tant que paysan, j'élève des vaches, des cochons, des poules, des chèvres, et en vendant du fromage, des œufs, de la viande, en participant aux marchés locaux ou à des associations de producteurs et de consommateurs, on arrive à créer ce lien social là. Et donc en produisant quelque chose, en le vendant à nos voisins consommateurs, en faisant du lien, on recrée de l'animation, on recrée de la dynamique. Et c'est des petites choses, Mais ici, le lien avec l'alimentation, demain, le lien avec la production d'un compost, après-demain, la création du lien entre des écoles, eh ben, on recrée la dimension sociale qui, justement, manque aujourd'hui, où chacun essaye de trouver des solutions pour lui, mais on a besoin de solutions collectives, plurielles, sur notre territoire.
Et pour rester dans le domaine du social, la loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme étant, ouvrez les guillemets, chef de file en matière d'aide sociale. Est-ce que vous avez d'autres propositions plus précises sur du côté du social ?
Tout le volet social, c'est tout ce qui concerne donc, la petite enfance et les personnes âgées, les handicapés. Ce sont donc les personnes qui sont en difficulté également. C'est vraiment cette proximité, cette carte de la proximité qui est importante de maintenir, et précisément sur ces publics qui sont en difficulté ou qui ont des problématiques spécifiques. L'idée étant bien justement de leur donner également leur chance et de les amener à un niveau équitable. Et de pouvoir soutenir et les soutenir dans leur vie, dans leur quotidien. Moi, je pense également donc aux femmes qui voudraient faire garder leurs enfants, qui veulent se former, qui voudraient pouvoir travailler. Et puis, donc, il y a énormément de choses à faire pour pouvoir les amener à se libérer d'une certaine manière pour qu'elles puissent dégager du temps et puis en sachant que leurs enfants sont gardés dans de bonnes conditions, par exemple.
Et du coup, une des propositions concrètes que l'on fait, c'est d'aider les enfants, les adolescents à prendre des vacances, à partir en vacances. Et c'est une idée toute simple, mais si aujourd'hui on est sur un territoire très âgé, on est sur un canton où il y a peu de population, si on veut que des jeunes restent sur ce territoire, il faut leur faire découvrir ce territoire. Et pour découvrir ce territoire, il faut aller voir ailleurs comment ça existe ailleurs, comment d'autres jeunes s'organisent ailleurs, pour qu'en revenant ici, eh ben, ils aient des idées de pouvoir faire des actions. Et c'est là où faire de liens entre des jeunes de ce territoire avec d'autres territoires, que ce soit urbains ou ruraux, on a intérêt à permettre aux enfants de découvrir leur territoire, de découvrir leur pays, pour qu'ils comprennent après, dans leur parcours de vie, le choix de territoire, le choix de vie, le choix de choisir un espace où ils se sentiront bien.
Et pour parler un peu de la santé, quel constat vous faites concernant la situation de l'accès aux soins ? On parle souvent de la Creuse comme étant soit un désert médical, soit un futur désert médical. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous proposez ?
Là, on peut dire qu'il y a un travail donc, qui a été engagé hein, donc, sur les maisons médicales. Je pense qu'on est tout à fait d'accord pour continuer donc, à développer ces maisons médicales. On voit bien que nos territoires ont du mal justement à capter l'intérêt des jeunes médecins. Bon, il y a des démarches qui sont engagées pour les attirer. Il y a des propositions qui leur sont faites maintenant au travers des cabinets médicaux pour qu'ils puissent s'installer dans de meilleures conditions. Voilà, tout ça va s'enclencher. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Par contre, il faut continuer. Et puis, peut-être... engager justement le département pour aider certains médecins à s'installer et peut-être les contacter dès la faculté pour pouvoir ou l'internat pour pouvoir justement les rapprocher de nos besoins et les amener ici. Je pense aussi que souvent, enfin désormais, ça se fera également au travers des femmes. Ce sont les femmes aussi qui pourront choisir de venir sur ce territoire, tout simplement parce qu'on offre quand même une qualité de vie. Ces femmes qui approcheront la trentaine auront envie de venir dans un département privilégié. Donc il faut savoir le présenter aussi sous toutes, et le valoriser sous toutes les formes.
Et dans les compétences départementales, on trouve aussi la mobilité. Alors, il y a deux points. On va d'abord parler de la mobilité de proximité. C'est pas forcément simple de se déplacer en Creuse. Par exemple, c'est difficile de faire le trajet Royer-Aubusson. Il n'y a pas ou peu de transports en commun. Comment, d'après vous, peut-on améliorer cette situation ?
Aujourd'hui, les trajets en commun qui sont organisés et centralisés souvent d'une capitale. On le voit pour la France où tous les trains vont à Paris. Quand on veut traverser de Bordeaux pour aller à Lyon en passant par la Creuse, eh ben, en ce moment, c'est impossible. Donc il faut refaire de la transversalité. C'est-à-dire qu'il faut recréer des circuits entre communes qui ne passent pas par Guéret au niveau de la Creuse. Donc c'est important que effectivement il y ait une liaison entre Bourganeuf, Royer, Royer, Feltin, Feltin, Aubusson, Aubusson, Pontarion, enfin voilà, qui est sur le sud du territoire, un lien entre les territoires. Et je ne parle pas du nord de la Corrèze, ou aussi faire un lien sur le plateau de Millevaches me semble aussi pertinent à réfléchir.
Et pour parler de la mobilité dans le sens le plus large, il y a un débat qui n'est toujours pas tranché entre la ligne Poitiers-Orléans-Limoges-Toulouse et la LGV, la ligne à grande vitesse. Cette ligne à grande vitesse, la LGV, a été reconnue récemment d'intérêt public. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas qui l'a reconnu intérêt public, mais ce n'est pas moi, parce que l'intérêt public d'une ligne à grande vitesse... qui va soi-disant nous faire gagner un quart d'heure entre Limoges et Paris en passant par Poitiers, alors que pour tous les Creusois, pour toute la ruralité, ça va nous prendre au moins trois quarts d'heure de plus par rapport à ce qui est aujourd'hui. Au-delà de ça, c'est aussi une aberrance économique, parce que aujourd'hui, c'est pas les lignes à grande vitesse qui sont rentables. Donc pour les rendre rentables, il faudra fermer les autres, et ben on va se retrouver comme l'est aujourd'hui le sud de la Creuse en dehors des voies de chemin de fer. Ben effectivement, ce sera le département entier qui se retrouvera en dehors des voies de chemin de fer. Donc c'est une aberration, c'est le même système que la centralisation, la question tout à l'heure sur la centralisation. Il faut créer des transversalités, et pour nous la transversalité va rester en gardant la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Et de mettre autour de cette ligne effectivement des accès au moins en quart possible, et sinon la réhabilitation de voies qui existent comme le Bordeaux-Lyon en passant par Guéret. Donc oui, de la proximité, de la mobilité, on peut l'accentuer, mais à condition de ne pas détruire ce qu'on a au bout du chemin. Donc c'est important de remettre de l'énergie sur la ligne Paris-Orléans, Châteauroux, Limoges-Poitiers, plutôt que de créer une nouvelle ligne qui, pour nous, de toute façon, on n'ira pas plus à Paris. Ça va accentuer la désertification de notre territoire rural, sans parler de nous, on ne pourra pas se déplacer, mais non plus d'autres ne pourront pas venir sur notre territoire. Et donc, à un moment donné, si on parle d'accueil sur notre territoire, si on parle de mobilité, de déplacement, d'échange, eh bien, on ne peut pas casser quelque chose qu'aujourd'hui on a encore à notre disposition.
Il faut être très vigilant aussi, c'est-à-dire que le transport relève d'un service public. Et voilà, il faut réellement maintenir le transport comme un service public.
Si je résume un peu ce que vous dites, on peut résumer ça en disant que la ligne à grande vitesse, le risque, c'est d'avoir une ligne qui traverse la Creuse mais qui ne s'y arrête pas en fait.
C'est le cas de toutes les lignes à grande vitesse.
C'est tout pour Limoges.
Le Bordeaux-Lyon, le Paris-Lyon, il fait Paris et Lyon. Il ne s'arrête pas dans les villes intermédiaires. Donc c'est comme le Paris-Bordeaux. C'est des lignes à grande vitesse pour rejoindre deux grandes métropoles. Et ça, ce schéma-là de penser de l'aménagement du territoire est destructeur pour une région comme la nôtre.
Alors, il y a un autre projet qui divise beaucoup en ce moment, c'est la fameuse ferme des 1400 veaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ?
D'abord, on a été complètement offusqués au moment du Salon de l'agriculture, de l'annonce de M. Le Foll, ministre de l'Agriculture, donc mettant en avant l'agro-industrialisation. On ne peut pas dire réellement que c'était une surprise, mais malgré tout, là, ça a été dit tellement clairement que ça nous a laissé quand même sous le choc. Et nous ne pouvons que réagir déjà pour le dénoncer fortement, en fin de compte, cette mise en avant de l'agro-industrie. L'agriculture française est au départ une agriculture familiale et elle doit le rester. Donc elle s'étend effectivement. Bon, l'agrandissement fait déjà suffisamment de dégâts. On a suffisamment d'agriculteurs actuellement en difficulté pour ne pas encore continuer à accentuer l'agrandissement et l'agro-industrialisation, en sachant que l'agro-industrie de l'agriculture mène vers des consortiums financiers et enlève en fin de compte tout pouvoir aux petits paysans. Et ça, c'est insupportable.
Ce qu'il faut rajouter sur ce projet-là, donc c'est que la viabilité de ce projet, il est construit sur le fait que deux communes de notre territoire ont fourni 11 hectares à une société photovoltaïque basée à Nice, donc les communes de Feigné et Saint-Martial-le-Vieux, qui ont mis à disposition du terrain à la communauté de communes des Sources de la Creuse, qui après l'a loué à une société photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on a 11 hectares de photovoltaïque au sol. Résultat économique pour la Creuse, zéro. On a vendu 11 hectares de notre territoire à des gens qui vont capter de l'énergie sur notre territoire, la vendre, résultat pour la Creuse, négatif. Tout ça pour permettre à l'association d'éleveurs qui se constitue d'avoir un loyer moins cher pour le bâtiment qui est viabilisé par la communauté de communes. Et puis dans un troisième temps, il y aura aussi une unité de méthanisation qui verra le jour, où l'unité de méthanisation fournira la paille aux éleveurs en échange du fumier pour pouvoir le traiter pour faire de l'énergie. Résultat des courses, la production photovoltaïque, la production de méthane, va permettre aux éleveurs de finir des animaux sur le territoire, et je ne parle pas de l'alimentation qui n'est pas produite ici, qui sera produite ailleurs. Donc tous ces enjeux-là, aujourd'hui, nous on les a posés, on en montre l'incohérence. C'est pas parce que le bâtiment sur lequel est construit vont vivre les animaux et est construit avec une entreprise et du bois local que ça résout le projet dans toute sa dimension sociale, écologique, économique. Donc ce projet-là, on en arrive en fait à reconnaître qu'effectivement l'agriculture c'est difficile et qu'il faut des aides publiques pour pouvoir le faire vivre. Donc si nous, on est élus au niveau du département, je dirais sous forme un peu de boutade, à ce moment-là, la collectivité locale, elle équipe toutes les exploitations agricoles d'un bâtiment, d'un accès route, d'un accès aux différents services, eau, électricité qu'on a besoin aujourd'hui. Ou alors, on aide chaque exploitation pour justement mieux vivre sur ce territoire, mieux vivre en vivant de l'élevage, et pour ça d'aider, de faire des schémas d'agriculture plus local, comme le disait Nadine tout à l'heure.
Et on arrive à la fin de la demi-heure, ça passe très très vite. Je vais donc vous remercier tous les deux, Nadine Saint-Jean-Lajoie et Jérôme Orvin pour Europe Écologie Les Verts, de vous être déplacés dans nos studios pour le premier tour et le second tour des élections départementales qui auront lieu à partir de ce dimanche. Je rappelle que c'est des élections par binôme, il ne faut pas rayer de nom sinon le bulletin est nul. Nous nous retrouvons très prochainement pour une autre émission avec un autre binôme candidat sur le canton de Felletin. Et donc on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Vassivière. Bye bye.
Merci.
Merci.